Bienvenue à toutes et à tous.
L'heure bleue sur France Inter.
Deux cours, un long, un court, le choc descend dans ses vertèbres en une décharge électrique, des larmes s'écrasent sur ses chevilles. Les pieds joints, elle secoue ses genoux comme les ailes d'un papillon qui se poserait sur l'épaule de France. Un court, un long, un court, elle passe sa main sur son front, du bout des doigts, elle redessine ses sourcils en forme de croissant de lune. Un court, un long, le souffle saccadé, elle sanglote une main devant sa bouche, des taches noires obscurcissent sa vue, ses cheveux lui font mal. Un long, un court, des araignées rouges tapissent le papier peint. Son corps tremble et frissonne. Elle pleure et pose ses mains sur ses oreilles qui bourdonnent. Geoffrine Donadieu est ce soir notre invitée à l'occasion de son premier roman intitulé « Une histoire de France ». Et comme chaque soir, on commence en musique avec Barbara.
J'ai eu tort, je suis revenue dans cette ville au loin perdue où j'avais passé mon enfance. J'ai eu tort, j'ai voulu revoir le coteau glisser le soir, bleu et gris, ombre de silence. Et j'ai retrouvé comme avant, longtemps après, le coteau là-haut se dressant, comme au passé. J'ai marché les tempes brûlantes, croyant étouffer sous mes pas les voix du passé qui nous hantent et reviennent sonner le glas. Et je me suis couchée sous l'arbre, c'était les mêmes odeurs. Et j'ai laissé couler mes pleurs, mes pleurs. J'ai mis mon dos nu à l'écorce, l'arbre m'a redonné des forces, tout comme au temps de mon enfance. Et longtemps j'ai fermé les yeux, je crois que j'ai prié un peu, je retrouvais mon innocence. Avant que le soir ne se pose, j'ai voulu voir la maison fleurie sous les roses. J'ai voulu voir le jardin où nos cris d'enfants jaillissaient comme source claire. Jean-Claude et Régine et puis Jean, tout redevenait comme hier. Le parfum lourd des songes rouges, les dahlias fauves dans l'allée, le puits, tout, j'ai tout retrouvé. Hélas, la guerre nous avait jetés là, d'autres furent moins heureux, je crois, autant je lis de leur enfance. La guerre nous avait jetés là, nous vivions comme hors la loi, et j'aimais cela quand j'y pense. Où mes printemps, où mes soleils, où mes folles années perdues, où mes 15 ans, où mes merveilles, que j'ai mal d'être revenu. Où les noix fraîches de septembre et l'odeur des murs écrasés, c'est fou d'où j'ai tout retrouvé. Hélas, il ne faut jamais revenir, autant cacher les souvenirs du temps béni de son enfance. Car parmi tous les souvenirs, ceux de l'enfance sont les pires, ceux de l'enfance nous déchirent. Vous ma très chérie, oh ma mère, où êtes-vous donc aujourd'hui? Vous dormez au chaud de la terre, et moi je suis venue ici pour y retrouver votre rire, vos colères et votre jeunesse. Je suis seule avec ma détresse, hélas. Pourquoi suis-je donc revenue, et seule au détour de ces rues, j'ai froid, j'ai peur, le soir se penche. Pourquoi suis-je venue ici, où mon passé me crucifie? Elle dort à jamais, mon enfant, mon seul.
Nous avons pensé dans l'équipe à commencer cette émission par cette magnifique chanson de Barbara sur son enfance, Geoffrine Donadieu, à cause de l'histoire que vous a racontée dans ses premiers romans intitulés Une histoire de France. Si je vous dis le mot enfance, il vous évoque quoi?
Quand je pense à enfance, je pense à question. Questions, paillettes, rêves, illusions, déceptions, guerre. Je pense à tout ça.
C'est-à-dire à toutes les images dont on bombarde les très jeunes enfants depuis qu'ils peuvent regarder des écrans. Ils sont encerclés par la sommation d'être comme on doit l'être dans ces images-là, de publicité par exemple.
Oui, oui, les enfants sont bombardés d'images avec tous ces écrans, mais ils étaient déjà bombardés d'autres choses avant. Il y a des paroles, il y a les adultes, il y a des cris, il y a des mots, il y a des mots qu'on ne comprend pas, ils ont leur propre définition et je pense que voilà, ils ont tout leur monde, tout leur univers intérieur qui bouillonne en fait et c'est l'enfance. L'enfance, c'est pas forcément quelque chose de joyeux.
La vôtre a été saccagée ?
Non, j'ai eu une belle enfance, faite de déguisements, de courses-poursuites dans le jardin, de chats perchés. Donc il y a eu un côté très joyeux. Et puis il y a aussi un côté un petit peu plus sombre sur ce monde sur la confrontation du réel de cette vie de l'adulte et de l'adulte en devenir et c'est pas forcément simple quand on est enfant.
L'enfance, c'est le territoire du sacré pour vous, Geoffrine Donadieu?
En tout cas, c'est un territoire, oui. C'est un sacré territoire à conquérir. C'est de tout un territoire de tous les jours à conquérir et c'est un espace à explorer, c'est un espace dédié aux expériences, aux essais, aux loupés, aux premières fois.
Vous avez quel âge ?
J'ai 29 ans.
Comment est arrivé votre livre chez Gallimard qui paraît en cette rentrée ?
Je l'ai envoyé à Jean-Marie Laclaftine qui est éditeur chez Gallimard. Parce que j'avais fait un stage, les stages de la NRF, en 2017. Et puis l'histoire a commencé à vivre lors de ce stage.
Alors il faut expliquer, Geoffrine Donadieu, que c'est un nouveau mouvement dans la littérature contemporaine. Certains éditeurs, et pas des moindres, ont décidé effectivement de former des écrivains, de leur permettre d'accéder à des codes d'écriture qui sont pas forcément des répétitions de manières d'écrire des écrivains précédents, et que cette nouvelle manière de raconter le réel est une nouvelle donne dans l'histoire de la production éditoriale. Et vous en faites partie, vous?
Alors je, en tout cas, dans l'atelier de Jean-Marie Laclaftine, je l'ai pas vécu comme une réelle formation d'apprentissage pour écrire. Moi, ce que Jean-Marie a pu me permettre, c'est d'explorer cet univers, d'accepter un côté très sombre, en tout cas, qu'il était possible d'écrire et qu'il fallait à un moment oser y aller et pas forcément le cacher ou le sublimer ou mettre beaucoup d'idées pour le cacher, mais pourquoi pas aller dans ce côté très brut et très cru pour le coup de cette histoire.
Alors on reviendra sur Histoire de France. France, c'est le prénom d'une femme d'une quarantaine d'années qui se prend pour une grande bourgeoise, qui est plutôt une petite bourgeoise extrêmement perverse et qui va sadiser une petite fille qui s'appelle Romy. On y reviendra si vous le voulez bien tout à l'heure. Votre livre est stupéfiant pour bien des raisons, à la fois pour la construction de ce texte, à la fois pour la manière dont vous encerclez votre personnage principal, qui va évoluer depuis l'âge de 7-8 ans jusqu'à l'âge de 25-30 ans. On reviendra sur ces étapes d'écriture. Je voulais savoir quand et comment vous avez commencé à lire.
Alors, j'ai commencé à lire très tôt, mais ma mère m'emmenait à la bibliothèque vraiment toute petite, hein, à mes 2-3 ans. Elle m'emmenait à la médiathèque, à la bibliothèque pour écouter les croiseuses.
2-3 ans, c'est jeune.
Ah oui, non, mais j'étais sur ses genoux et je pense, à mon avis, je devais pas être forcément patiente. D'ailleurs, elle me l'a dit. Mais il y avait déjà des conteuses qui venaient et qui racontaient toutes ces histoires. Il y avait les diaporamas, toutes ces diapositives. Et très vite, elle m'a inscrit à ce genre de club que j'ai continué, que j'ai suivi. Et puis après, j'ai adoré découvrir les livres. On en avait beaucoup chez nous. Et très vite, j'ai eu mes premiers carnets, mes stylos à paillettes pour écrire dedans. Et c'était parti.
Geoffrine, c'est votre vrai prénom.
Oui.
Mais Donadieu, ce n'est pas votre vrai nom.
Non.
Comme par hasard, Donadieu, c'était le vrai nom de Marguerite Duras. Pourquoi avez-vous changé de nom?
Alors, moi, j'ai changé de nom parce que je mène des activités à côté. Je mets en place des ateliers dans les hôpitaux pour enfants malades, des ateliers d'expression. J'écris aussi des concepts pour la télévision. Et je voulais vraiment faire la part des choses. Il y a cette Geoffrine qui met en place des ateliers et qui crée voilà des outils pédagogiques, et puis il y a Geoffrine auteur, et comme ça on peut entre guillemets faire la différence. C'est bien la même personne, mais voilà, quand je mets en place des ateliers d'expression dans les hôpitaux avec les enfants malades, je ne vais pas parler de ce que j'écris, de ce que je fais. Enfin, l'auteur n'existe pas, je suis avec eux.
En apparence, car l'écriture est poreuse, et je pense que les expériences que vous avez traversées dans les hôpitaux avec les enfants nourrissent abondamment certains chapitres de votre livre « Histoire de France ». Je vous propose d'écouter la voix de Annie Ernaux à propos du genre littéraire. Manifestement, vous êtes une grande lectrice d'Annie Ernaux. Annie Ernaux va parler du roman et va parler de son passage incessant entre le genre autobiographique et le genre romanesque. Écoutez-la, c'est une archive INA du 16 janvier 2003.
Bon, moi, je sais une chose, c'est que j'ai commencé par des romans, vraiment, oui. C'est-à-dire que j'inventais dans les armoires vides, il y a des choses qui sont inventées, je le dis. Mais ce qui est évidemment vrai, ce sont les sentiments, les émotions, pour reprendre les paroles de Genet. Ce sont des romans. Et puis, à partir de La femme gelée, il s'est produit pour moi une sorte de... Je n'étais pas à l'aise dans le roman, c'est-à-dire que je sentais que quelque chose, j'avais besoin d'autre chose qui était la recherche, de considérer l'écriture comme une exploration, comme une recherche. Et là, effectivement, avec La femme gelée, c'était la recherche de mon parcours de femme, qui est une autre de mes obsessions, bien sûr, la condition féminine, le fait d'être femme. Et bon, et c'est à partir de là que je me suis orientée vers quelque chose qu'on peut appeler vraiment le genre autobiographique pur, mais je n'aime pas trop non plus, parce que l'autobiographie, dans l'esprit de beaucoup, c'est parler de soi. Et ce n'est pas cela que je cherche. En fait, je me considère comme une matière, comme un lieu de passage de différentes expériences sociales, mais aussi de la passion, et tout cela. J'essaie de le mettre au jour par l'écriture, mais il ne s'agit jamais de livrer ou de rechercher un moi non plus. Pas rechercher, vous savez, ces fameuses histoires de rechercher une identité, etc. Non, ce n'est absolument pas dans ce but-là. C'est de rechercher quelque chose qui appartient au fond à l'humanité, soit la conscience ou le corps, et dont simplement je suis un exemplaire.
Vous cherchez quoi quand vous écrivez, Geoffrine Donadieu, et vous vous retrouvez dans les propos que vient de tenir Annie Ernaux?
Pour le coup, Une histoire de France, c'est un roman. Et je m'inspire de tous ces petits soldats que je rencontre dans mes ateliers. Mais évidemment, il y a aussi des expériences de fillettes, de jeunes filles, de jeunes femmes qui viennent nourrir une histoire de France. Et Annie Ernaux le dit, hein, enfin, notre corps, c'est une matière, en tout cas. C'est une matière qui nous permet d'expérimenter, de tester, de vivre, en fait, et de pouvoir retranscrire des sensations, des émotions, et d'inventer, d'imaginer aussi. Alors, c'est vrai que Annie Ernaux, à partir du moment où elle a écrit La femme gelée, il y a eu quelque chose qui a basculé complètement. Mais même je me retrouve dans ce qu'elle dit. Puis Annie Ernaux, vous ne pouvez pas me faire plus plaisir qu'en passant un extrait et en écoutant sa voix qui, cela m'émue toujours beaucoup. Car j'aime cette femme, j'aime cet écrivain.
Je t'aime, ma chérie, tu le sais, n'est-ce pas? Oui. Et toi, tu m'aimes? Oui. Elle passe devant le salon où les deux garçons regardent une cassette et rejoignent la chambre ocre en se tenant la main. Elle s'allonge sur le lit, serrée l'une contre l'autre. Bientôt, France s'endort. Romy en profite pour voler 3 photos du couple. Elle leur trouvera une cachette dans sa chambre. Ça, c'est le chapitre 6 de ce premier roman que vous signez dans cette rentrée littéraire aux éditions Gallimard, Une histoire de France. Double sens à ce titre, Une histoire de France. Évidemment, quand on n'a pas ouvert le livre, on se dit, c'est une histoire de la France contemporaine. Et puis très vite, car ce n'est pas ce suspense-là que vous allez ménager, Geoffrine Donadieu, c'est plutôt le suspense de la grâce de l'écriture, on s'aperçoit que France, c'est le prénom de celle qui va pervertir dans tous les sens du terme et va saccager l'enfance de cette petite fille, Romy. Mais en même temps, j'ai l'impression, après avoir lu votre livre, qu'une histoire de France, c'est aussi la stigmatisation d'une certaine France contemporaine. Celle de la surconsommation, celle des hypermarchés, celle des modèles qu'on fournit aux tout petits enfants, que ça soit des poupées Barbie ou que ça soit des kilos de bonbons ou que ça soit des images de publicité tournées en dérision, comme si effectivement l'enfance n'était plus l'accès et la possibilité de l'expression de l'innocence.
L'enfant a de moins en moins de place pour imaginer, pour créer, pour inventer, et il n'y a plus de place pour l'ennui. Et on le voit de plus en plus. On donne sans cesse aux enfants de la matière, des informations, des écrans. On les met devant la télévision et on leur donne un produit fini. Et je trouve ça dur parce que l'enfant n'a plus d'espace en fait. On a supprimé l'espace de l'enfant. On lui a supprimé un endroit où il pouvait se trouver, se chercher, grandir et devenir un adulte en fait, bien dans ses baskets. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Ce n'est que mon avis, mais l'enfant n'a plus d'espace, je trouve, en tout cas, pour s'exprimer et pour se trouver.
Pourquoi avez-vous été dans les hôpitaux pour observer les enfants, pour travailler avec les enfants, pour leur donner justement la possibilité d'exprimer leur désarroi, leur tourment? Est-ce que c'était pour écrire ou est-ce que c'était parce que c'était une vocation qui épanouissait votre propre personnalité?
Alors, moi j'ai un parcours de théâtre, j'ai fait des petites compagnies de théâtre, puis j'ai fait le cours Florent. Et au moment où j'ai terminé ce cursus, j'étais pas du tout heureuse et épanouie sur scène. Quand je montais sur scène, quand j'endossais un rôle, j'étais pas forcément bien et le public que je rencontrais n'était pas celui que j'avais réellement envie de rencontrer. Il pouvait se déplacer dans les salles, il pouvait voir un spectacle, il le payait et moi j'avais envie d'aller à la rencontre d'un public qu'on appelle le public dit empêché, celui qui n'a pas accès à la culture, celui qui est empêché par les murs, mais parfois lui-même est empêché. J'ai refait une formation pour être directrice de centre socioculturel et je me suis spécialisée en psychiatrie. Et là, j'ai découvert tout un univers, j'ai découvert tous ces enfants, ces adolescents qui n'avaient pas accès à la culture, qui étaient souvent issus d'un milieu social compliqué. Et en fait, j'ai commencé à mettre en place des ateliers d'expression. Au sens large, ça pouvait être par le dessin, par les mots, par des jeux d'improvisation. Et c'était parti. Et je suis allée à la rencontre de tous ces petits soldats perdus.
Vous savez que Marguerite Duras a écrit notamment L'Olvestein parce qu'elle a rencontré une personne qui était dans un hôpital psychiatrique, elle a passé du temps avec elle, et qu'à la suite de ces longs entretiens, elle est revenue dans cet hôpital psychiatrique et elle a composé le personnage de L'Olvestein.
Alors j'ai adoré le ravissement de L'Olvestein, mais je ne savais pas que c'était pour cette raison.
En même temps, Geoffrine Donadieu, quand on lit votre premier roman, Histoire de France, on a l'impression que c'est pas du docu-fiction, que c'est pas de la réalité sanguinolente, que c'est une réflexion, que c'est une mise en perspective, que c'est une chambre d'écho. D'ailleurs, nous, nous sommes les lecteurs de cette chambre d'écho, de ces désarrois, de ces, sans doute, de ces moments de fragments de vie que vous ont avoué les enfants au cours de ces ateliers. Comment s'est déclenché le processus d'écriture? À partir de quand vous êtes dit, tiens, toutes ces paroles-là qui me sont confiées, qui me sont transmises comme une sorte de vérité, avec beaucoup d'éclat, mais qui pourront pas peut-être continuer leur chemin de vérité. Je vais essayer d'en faire quelque chose, et ça avec des mots.
Ça fait des années que c'est là, que j'entends des témoignages, que je vois des dessins, qu'on met en place des expositions. Il y a 4-5 ans, on a fait une exposition qui s'appelait « Soyons ouf », on osait exploiter cette folie, ces abus qui étaient dessinés, qui étaient écrits, et je me disais que sous forme de témoignages, de phrases, ça n'aurait pas forcément le même impact, qu'il fallait le faire sous forme de roman. Sauf qu'à chaque fois que j'essayais, c'était beaucoup plus doux. C'était l'histoire d'une infirmière qui travaillait dans les hôpitaux. Puis après, c'était l'histoire d'une petite fille qui faisait un séjour à l'hôpital. Et je tournais vraiment autour du pot parce que je n'osais pas y aller. Alors que les paroles, tout ce qui était dit, c'était assez cru. Il n'y avait pas de métaphore, je veux dire. Il fallait y aller. Et l'atelier m'a permis, l'atelier que j'ai pu faire, en tout cas, m'a permis ça, d'y aller et d'oser, d'ouvrir cette voie.
Du corps, il est question tout au long de ce roman, Geoffrine Donadieu, du corps dans tous ses états, du corps de la petite fille, en passant par la découverte de son propre corps au moment de l'adolescence, puis ensuite des débuts de l'apprentissage de l'âge adulte, des marques et des scarifications intérieures et extérieures que laisse le viol, qui plus est le viol d'une femme sur une petite fille, car c'est comme cela que s'ouvre votre livre. Et de ce corps, il est question aussi de manière introspective, de manière problématique, de manière réfléchie, de manière calme, de manière patiente. Je vous propose d'écouter la voix de Jacques Lacan, qui va évoquer la jouissance de l'autre et le non-rapport. C'est finalement ça, un des thèmes récurrents de votre premier roman, c'est le non-rapport. Nous écoutons la voix de Jacques Lacan lors d'une conférence intitulée « La troisième », c'était à Rome en 1974.
Cette jouissance de l'autre, c'est là que se produit ce qui montre qu'autant la jouissance phallique est hors corps, autant la jouissance de l'autre est hors langage, hors symbolique. Car c'est à partir de là, à savoir à partir du moment où l'on saisit ce qu'il y a, comment dire, de plus vivant ou de plus mort dans le langage, à savoir la lettre, c'est uniquement à partir de là que nous avons accès au réel. Cette jouissance de l'autre dont chacun sait à quel point c'est impossible, et contrairement même au mythe qu'évoque Freud, qui est à savoir que l'éros, ça serait faire un, mais justement, c'est de ça qu'on crève, c'est qu'en aucun cas, deux corps ne peuvent en faire qu'un. De si près qu'on le sait, mais tout ce qu'on peut faire de mieux, enfin, dans ces fameuses étreintes, enfin, c'est de dire, serre-moi fort, enfin, Mais on le serre pas si fort que l'autre finisse par en crever, quand même, n'est-ce pas? De sorte qu'il n'y a aucune espèce de réduction à l'air. C'est la plus formidable blague. Enfin, s'il y a quelque chose qui fait l'un, c'est quand même bien le sens de l'élément, le sens de ce qui relève de la mort.
Effectivement, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre dans votre roman. Cette petite fille, Romy, qui va se retrouver capturée dans l'appartement de France sous prétexte de garder les enfants, va se retrouver d'abord dans sa salle de bain, puis ensuite dans la chambre. Ce qui est très émouvant à l'intérieur de votre roman, Geoffrine Donadieu, c'est que vous ne péchez jamais ni par manichéisme, ni par moralisme. Et que un des aspects les plus fascinants de ce roman vénéneux, et qui va en choquer plus d'un, parce qu'il atteint les zones noires de notre conscient, de notre semi-conscient, peut-être de notre inconscient, c'est que cette petite fille, elle va se retrouver dominée par cette femme, normale, elle a 40 ans et l'autre elle en a 9. Mais elle va se retrouver dominée socialement et psychologiquement. Ce que vient de dire Lacan, c'est qu'il n'y a pas de mots pour dire ça. Donc comment vous avez trouvé les mots? Puisque tout à l'heure vous avez dit... Finalement, moi, je travaille avec des dessins, je travaille avec des bribes de phrases. Il a bien fallu trouver les mots.
Oui, il fallait mettre des mots, il fallait donner des mots à Romy qui est effacée, qui n'existe pas. Et la preuve, c'est que elle n'est pas dans le titre. France lui vole son enfance, la viole. Donc c'était très très compliqué de lui donner de lui donner une voix, et en même temps il fallait que ce soit cru. La métaphore ne pouvait pas exister. C'est venu assez naturellement quand même. À partir du moment où j'ai accepté de laisser Romy s'exprimer, je l'ai laissé m'embarquer. Et parfois j'étais choquée aussi, mais je crois qu'il y avait eu beaucoup de matière, de propos que j'avais pu entendre toutes ces années, et puis à la fin ça a fait une histoire de France, parce que Romy, elle est une mosaïque de portraits de tous ces enfants abusés, et je voulais vraiment leur donner une voix à travers ce roman.
Vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez France Gall qui figure dans le premier tiers de votre livre, avec un très beau titre qui correspond bien au courage, à la détermination et à la volonté morale et intellectuelle de Romy de s'en tirer, c'est « Résiste ».
Comme un amour qu'on quitte. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste. Ça vaut la peine. Si on veut t'amener à renier tes erreurs, c'est pas pour ça qu'on t'aime. Si tu réalises que l'amour n'est pas là, que le soir tu te couches sans aucun rêve en toi, résiste. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde.
Seule, dans les grands couloirs, elle marche avec assurance. Elle s'imagine en héroïne d'un film d'action venu se venger. Des séquences de films avec Sharon Stone, Angelina Jolie, défilent dans sa tête. Romy rêve de leur ressembler, avec leur corps parfait, leur ambition, leur force. Elle veut porter des pantalons en cuir, des t-shirts déchirés, des boots, des Ray-Ban, des robes de soirée, sexy, assez amples pour cacher ses armes. Elle hypnotise sa proie, la séduit pour mieux la broyer. Elle dépose le baiser de la victime sur la bouche de ses victimes et se retourne une dernière fois avec un sourire impertinent. Elle s'engouffre dans la nuit, se noie dans la foule et trouve l'énergie des passants avant de s'endormir dans un lit king size. Elle trouve le sommeil tandis que le soleil levant illumine sa chambre. Romy choisit son passé, son présent, son futur, son physique, son caractère et sa vie. Dans ce vaste territoire qui lui appartient, elle est libre. C'est ce que vous écrivez, Geoffrine Donadieu, dans ce premier roman qui sort en cette rentrée littéraire, intitulé « Une histoire de France ». Petit à petit, le long plan séquence consacré à France va se déplacer géographiquement, politiquement et sensoriellement uniquement sur Romy. Romy qui va vivre à l'intérieur de son corps et de son âme et de son esprit ce qu'elle a vécu quand elle était si petite. Ce viol va la poursuivre malgré elle, mais le poids de la politique, le poids de l'armée, le poids de la classe sociale à laquelle elle appartient vont littéralement l'enserrer et l'empêcher de respirer. Pourquoi vous liez classe sociale défavorisée et grand malheur personnel?
C'est caché. Et puis, je trouvais ça important que Romy soit dans une famille de militaires, dans un immeuble réservé aux familles militaires, parce qu'elle mène une guerre. Dans l'armée, il y a le silence. Le silence est très présent. Les non-dits, une guerre de territoire. Et je trouvais ça intéressant d'écrire ce qui se passe sous ce toit. C'est-à-dire que ce père mène une guerre en Afrique. Il a envoyé quand même par l'État faire cette guerre. La mère est malade et est souvent hospitalisée. Donc elle mène aussi une guerre contre la maladie. Et Romy mène une guerre contre son corps, contre France. Et sous ce même toit, il y a trois guerres. Avec ce silence, avec ses secrets, avec les tabous, les non-dits. Et je trouvais ça intéressant de faire ce lien entre ces trois membres qui ne se parlent pas. Et c'est surtout trois membres issus d'une famille, de la même famille. Ils sont tous corps-objets. Le père est quand même un corps-objet en Afrique, on l'utilise comme une arme. La mère, on va lui donner beaucoup de médicaments pour essayer de vaincre sa maladie et on va faire même des tests sur elle, donc c'est aussi un corps-objet. Et Romy, c'est très clair, c'est un corps-objet par rapport à France qui va abuser d'elle et Romy qui va tester son corps avec des médicaments, des tentatives de suicide qui va déjouer la mort. Voilà, ce sont trois corps-objets sous le même toit, qui vivent une expérience très, très forte.
C'est votre premier roman. Vous n'êtes pas né de la dernière pluie, malgré votre jeune âge. Vous avez choisi de prendre le vrai nom de Marguerite Duras. Vous avez architecturé votre roman en trois parties qui sont introduites par une citation d'un très grand écrivain, aujourd'hui un peu méconnu, mais pas des jeunes générations. Je veux parler de Louis Calaferte. Nous allons l'écouter. Il va parler de sa volonté de devenir écrivain. C'est une archive INA du 30 septembre 1996 au micro de Pierre Drachlin.
Je l'ai décidé comme ça, bon, à 13 ans, quand j'étais effectivement dans une usine, d'être écrivain, de devenir écrivain. Je voulais être écrivain sans savoir exactement ce que ça représentait. Mais enfin, Et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai réellement pris conscience, enfin, ça a été très vite d'ailleurs, où j'ai pris conscience de ce que pouvait être la vie à laquelle, enfin l'existence à laquelle normalement j'étais destiné, parce que bon, il n'y avait pas de... Là, j'ai eu le sentiment très fort et très, très assuré, enfin surtout que, en fait, par l'écriture, tout pouvait se sublimer, enfin, on pouvait échapper à... Mais enfin, ça demandait quand même plusieurs années après ça. Disons à l'âge de 13 ans, grosso modo. J'avais lu quelques livres comme ça épars, mais sans... C'était le rêve était en dehors de la réalité formelle, enfin, de ce que pouvait présenter... Je ne savais pas ce que c'était qu'être écrivain, mais pour moi, c'était une décision ferme. D'abord, j'ai eu une enfance difficile, et quand je suis rentré là, comme ça, dans une usine, une fois encore, enfin, vous l'avez signalé, c'était sous l'occupation, donc, je veux dire, à cette époque-là, il n'y a pas de question de protection sociale, ni rien du tout, c'est bon, ça n'existait pas. Non, là, j'ai immédiatement pris conscience de ce que pouvait être une condition qui n'était pas la condition ouvrière, hein. C'était la condition prolétarienne, c'était pas... Je ne sais pas si aujourd'hui ce type de conditions existe encore en France, peut-être, je ne sais pas. Hein. Mais enfin, là, j'avoue que c'était... Donc j'ai pris conscience tout à fait que, enfin, que c'était invivable, que c'était impossible. Quoi. Donc c'est vrai que par l'écriture, là, j'ai commencé d'écrire pour moi.
Que représente pour vous Louis Calaferte? Et s'il y a bien... Une condition qui existe aujourd'hui en France, en 2019, c'est la condition prolétarienne, pour reprendre les mots de Louis Calaferte. Et c'est ce que vous décrivez, Geoffrine Donadieu.
Alors, Louis Calaferte, je l'ai vraiment découvert quand j'écrivais une histoire de France. Et ça a été une révélation. J'ai adoré ce qu'il écrivait et la mécanique des femmes particulièrement. Il écrit le réel, il écrit le vrai. Il n'essaye pas de faire beau, de faire joli. Il recherche cette parole, cette vérité qui lui appartient. Et il n'aurait jamais pu écrire tout ça s'il était issu du milieu de la bourgeoisie. Il défend une classe et surtout il la montre, il la représente comme elle est. Et c'est ce que j'ai vraiment aimé chez lui. Il ne cherche pas à plaire, il ne cherche pas à déplaire, il dit juste les choses sans fioriture. Et ça, c'est formidable.
Vous avez entendu parler ces derniers temps de cette histoire atroce de ce monsieur qui est en ce moment incarcéré et qui va être jugé dans 3 semaines à peu près, le chirurgien de Jonzac.
Oui, j'en ai entendu parler, c'est atroce. Je ne sais pas comment ça peut exister, même comment ça a pu se faire. Mais ça existe.
Ça existe, et évidemment j'avais lu votre livre avant d'apprendre cette horrible histoire, et je suis revenue vers votre livre. Après avoir appris cette atroce histoire, comme si le réel aussi irriguait votre écriture, même si ce sont des paroles entendues, si ce sont des dessins que vous avez essayé de comprendre, même si ce sont des destins aussi que vous avez accompagnés, vous, quand vous étiez dans les hôpitaux psychiatriques. À la fin de votre livre et dans le dernier tiers de votre livre, Geoffrine Donadieu, il y a une description clinique, et j'emploie à dessein ce terme, de la vie quotidienne dans un hôpital psychiatrique. Car Romy, et je n'attends pas au plaisir que pourront avoir vos futures lectrices et vos futurs lecteurs pour votre premier roman, mais c'est vrai qu'il y a des strates où vous essayez de nous restituer ce que ça veut dire quand on est une jeune fille, qu'on a fait une tentative de suicide, qu'on va se retrouver, malgré l'excellence d'ailleurs, de la qualité des services médico-sociaux qui vont vous accompagner, vous écouter, parce que votre livre aussi est un éloge de toutes ces personnes qui vont essayer de s'occuper des personnes qui sont un peu hors société, hors marge, qui souffrent énormément. Eh bien voilà, c'est pire que le pensionnat, c'est pire que la répétition des jours, c'est pire que l'annihilation de sa propre personnalité.
Oui, et c'était très important pour moi d'écrire le réel, d'écrire une vérité. Je ne pouvais pas faire autrement. Et écrire sur ces invisibles, en fait, c'était important. J'ai envie de donner une voix à tous ces invisibles, tous ces milieux qu'on ne trouve pas souvent dans la littérature. Et Et l'histoire, une histoire de France, voilà, ça se passe à Toul, dans l'est de la France. Elle côtoie les zonards du canal. Elle va en psychiatrie. Elle passe sa vie dans le supermarché qui est à côté de chez elle. Elle traîne sur les remparts de sa ville. Et montrer des lieux, montrer ce réel, montrer toutes ces existences, c'était important.
Il y a aussi autre chose qui est extrêmement compliqué, gênant, moralement, mais que vous avez le courage d'aborder, Geoffrine Donadieu, dans ce premier roman. C'est évidemment, on va pas parler de consentement, puisque cette petite fille se fait violer par une femme de 40 ans. Mais on va parler d'autre chose qui est difficilement exprimable par des mots et que vous réussissez à maîtriser grâce à votre écriture. C'est la manière dont l'addiction à la perversité va rentrer à l'intérieur du corps et du cœur de cette petite fille. Cette femme qui va lui bousiller sa vie, une fois qu'elle se sera éloignée, eh bien, cette femme va lui manquer. Pourquoi ?
Romy a 9 ans quand elle est abusée par France. Son père et sa mère sont absents dans sa vie. Il y a une place à prendre. À 9 ans, on a besoin de se construire pour devenir un adulte épanoui. On a besoin d'amour. Et France a pris cette place et lui a donné de l'amour, en tout cas à sa façon. Et Romy a grandi avec cette idée que pour se faire aimer, fallait probablement être un objet, fallait peut-être être touché, fallait donner du plaisir, parce qu'elle, Romy, a reçu du plaisir, mais elle en a donné. France lui a appris à donner du plaisir. Et Romy a grandi avec cette idée. Et on le voit dans la partie 2, dans la troisième partie, qu'elle se donne. Elle donne son corps, elle est presque dans une sorte de bénévolat du corps, en fait. Elle le donne à tout le monde, elle fait plaisir à tout le monde, mais elle ne le reçoit pas, elle ne le ressent pas, et elle est complètement anesthésiée.
Il y a des moments où Romy récupère sa liberté, il y a des moments où elle s'en sort, ou en tout cas elle croit qu'elle s'en sort. Elle s'en sort justement par l'abandon de son propre corps, pour essayer de faire don, oblation presque. Il y a presque quelque chose de mystique à l'intérieur de l'effacement de son propre corps pour pouvoir le donner à l'autre avec un grand A, ou en tout cas à tous les autres. Elle a aussi cette propre liberté de temps en temps de pouvoir choisir ses amoureux. Elle fantasme sur eux, mais elle a un côté un peu « je vais prendre et choisir ceux ou celui qui me plaît ». Et il y a notamment un personnage assez romanesque qui fait penser à un des personnages de Virginie Despentes dans le dernier de la série intitulée Vernon Subutex, c'est Joli Cœur Tatoué. Joli Cœur Tatoué, c'est un garçon, comme il en existe partout, dans toute la France, dans tous les villages et dans tous les bourgs de France, et qui, lui, s'est construit son propre territoire, à l'intérieur duquel Romy va pouvoir, pour un temps, en tout cas, respirer, se trouver en accord avec. Est-ce que ce sont des personnages que vous avez inventés, ou ce sont des personnages qui sont des échos, des confessions que vous avez pu recevoir, Geoffrine Donadieu ?
Non, ce sont des échos, bien sûr. Ce sont des personnages. Je me suis nourrie de plusieurs personnages. Enfin, chaque personnage a plusieurs identités. Mais bon, on les retrouve. Enfin, pour le coup, cette histoire se déroule à Toul. Mais je suis sûre que dans chaque ville, dans chaque village, vous pouvez retrouver un joli cœur tatoué, ce genre de voisins, de personnages, et Romy s'en nourrit, c'est sa nourriture en tout cas dans cette histoire, et elle est comme ça, Romy, elle prend, elle jette, elle vomit, elle avale, elle recrache, mais c'est comme ça qu'elle a été élevée avec France. Elle a appris à beaucoup donner, à rejeter. Elle va être dans, tout le temps dans cet excès, y compris avec la nourriture, avec les mutilations, avec les gens. C'est très difficile pour elle de vivre simplement.
Elle n'a jamais dit l'origine de sa souffrance, y compris avec sa propre mère dont elle se rapproche. Pourquoi ? Parce que le secret est trop lourd et que la souffrance est trop intense ?
Je pense que elle est humiliée. Elle a honte. Elle sait que ce qui s'est passé, ce n'est pas bien. Ça ne doit pas exister. Mais je crois que France a réussi à répandre son venin et à bien lui faire comprendre que c'était peut-être de sa faute. Romy va se poser beaucoup de questions dans l'adolescence. Pourquoi aussi avoir attiré une femme? C'est pas un homme qui l'a touchée, c'est quand même une femme. Donc, quel est son corps? Est-ce qu'elle a un corps de petit garçon? Parce qu'elle est quand même issue d'une famille où c'est un homme, une femme, un père, une mère. Et donc, c'est dans ce schéma-là qu'elle a été... qu'elle existe, mais là elle est touchée par une femme, donc forcément ça vient toucher des choses chez elle sur son corps, sur ses seins, sur ses fesses, sur ses hanches, voilà, sur son sexe en fait. Qu'est-ce que c'est que ça?
Votre livre est dédié, on comprend pourquoi, Geoffrine Donnadieu, aux petits soldats inconnus. À la fin du livre, à la dernière page, il y a des remerciements. Je n'en citerai qu'un. Je remercie Fatma Chaouche d'avoir plongé dans les eaux troubles pour me remonter à la surface. Vous étiez très bas pour pouvoir écrire ce livre?
Oh, très bas, non, mais je pense que comme tout le monde, on a un parcours. Et ce parcours-là, il est rarement tout rose. Et j'ai eu de la chance de rencontrer sur ce parcours de très belles personnes qui à certains moments m'ont aidée. Maintenant, je pense que c'était, comme tous les enfants et les adolescents, on traverse des choses qui peuvent remuer et on a de la chance, je ne sais pas pour tout le monde, mais de rencontrer de belles personnes.
Merci infiniment, Geoffrine Donnadieu, et bravo pour ce premier roman qui s'intitule « Une histoire de France » et qui paraît ces jours-ci aux éditions Gallimard.
When you told me the other day that you wanted to come back to stay and soothe me, your words they soothe me. Your guys, all you told me really was a lie.
Vous avez peut-être reconnu Alani avec Chalala. Merci à Gilles Gaillard qui était à la technique ce soir. Merci à Élodie Royer, Anne-Sophie Dazard, Adrien Ezeli et Louise Douillet. Et merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Et merci à Lilian Allôme qui a réalisé cette émission. Et après le prochain journal d'information, vous avez rendez-vous, évidemment, avec Mishka Sayas pour son Very, Very Good Trip.